merci beaucoup. Donc moi, je suis le docteur Ramel, je suis pneumologue et je travaille au Centre de ressources et de compétences pour la prise en charge de la mucoviscidose à Roscoff, donc dans le Nord Finistère. Le Nord, c'est pas mal non plus. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts puisque j'ai été investigateur principal de nombreux essais du laboratoire Vertex, dont il sera beaucoup question au cours de cette présentation. Donc, pour quelques généralités, pour commencer sur la mucoviscidose, vous savez, c'est cette maladie à transmission autosomique récessive liée à la mutation du gène CFTR qui est situé sur le bras long du chromosome 7. Ce gène CFTR est code pour une protéine CFTR membranaire qui est responsable d'un flux d'ion chlorure. Et l'activité globale de la protéine CFTR, elle va dépendre à la fois de la quantité de canaux CFTR qui est présente à la surface de la cellule et de leur fonctionnement. Et la fonction du canal CFTR, il se définit à la fois par sa probabilité d'ouverture et par sa conductance. La protéine CFTR joue un rôle central dans l'expression multisystémique de la maladie parce que c'est une protéine ubiquitaire qui est très largement exprimée au niveau de la membrane apicale des cellules épithéliales, de nombreux appareils, en particulier l'appareil respiratoire, les glandes sudoripares, le foie, le pancréas, le tractus intestinal et chez les hommes, l'appareil génital. Plutôt que de la mucoviscidose, ce serait plus exact de parler des mucoviscidoses parce qu'il y a vraiment des présentations cliniques variées, à la fois en fonction des mutations, mais aussi de facteurs extérieurs, notamment environnementaux. Alors, jusque 2011-2012, il y avait déjà eu beaucoup de progrès, mais ces progrès étaient liés essentiellement aux traitements symptomatiques, aux importants progrès qu'avait connu le programme de transplantation, et à aussi une forte volonté d'organisation des soins. C'était le fruit des différents plans nationaux maladies rares, et avec en particulier l'implantation du dépistage néonatal en 2002, élargi à l'ensemble du territoire, même si nous, en Bretagne, on l'avait depuis plus longtemps, hein, depuis 1989. Il y a l'organisation des soins au niveau des centres dédiés, donc là aussi répartis sur tout le territoire, une filière de soins maladies rares bien structurée, et une très forte implication des associations de parents et de patients. Mais par contre, jusqu'à cette période, les propositions thérapeutiques qu'on pouvait faire à nos patients étaient complètement indépendantes du statut génétique. On a vu cette maladie pédiatrique, alors excusez-moi, devenir une maladie de l'adulte, avec des patients qui parvenaient à avoir un bien meilleur investissement social et professionnel, mais au prix de fortes contraintes de soins, d'une qualité de vie souvent très altérée, avec des taux très élevés d'anxiété et de dépression, et un pronostic de la maladie qui restait quand même effroyable, dominé par l'atteinte respiratoire, avec souvent comme seule issue la transplantation pulmonaire. Et en 10 ans, que de changements, et ça c'est lié essentiellement au modulateur. Comme vous voyez, une proportion d'adultes qui n'a cessé d'augmenter, et en particulier des adultes de plus de 40 ans, un âge au décès encore qui a quand même bien progressé, et puis un nombre de grossesses qui explose, alors que dans le même temps, le nombre de transplantations pulmonaires a largement diminué. Et ça, au cours des dernières années, c'est vraiment l'impact des modulateurs. Alors, pour comprendre l'action des modulateurs, il faut revenir un peu au basique, à savoir la connaissance des mutations. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a un peu plus de 2000 mutations connues du gène CFTR, et elles sont classées en 6 classes fonctionnelles en fonction de l'impact qu'elles ont sur le fonctionnement de la protéine. Il y a les mutations à fonction minimale, donc classe 1, classe 2. Les mutations de classe 1, par exemple, il n'y a aucune synthèse de la protéine. Les mutations dites gating, c'est quand il y a un défaut d'ouverture du canal. Et enfin, il y a des mutations dites moins sévères à fonction résiduelle, où la protéine est produite, mais n'est pas très fonctionnelle, ou trop vite dégradée. La mutation delta F508, qui est de loin la plus fréquente, va provoquer en fait plusieurs dysfonctionnements. À la fois une synthèse et une maturation incomplète de la protéine, une faible quantité de la protéine présente à la membrane et également un certain degré d'instabilité à la surface. Il faut savoir qu'à ce jour, le laboratoire Vertex est encore en situation de monopole. Tous les modulateurs dont on dispose sont issus de ce laboratoire. Et les modulateurs, c'est des molécules qui se lient aux protéines CFTR déficientes. Et les deux catégories principales, c'est les potentiateurs qui améliorent l'ouverture et la fonctionnalité des protéines CFTR et les correcteurs qui vont augmenter le nombre et la disponibilité de CFTR en améliorant la maturation et la progression intracellulaire. Donc, c'est résumé là. Alors, il y a deux autres classes, mais qui ne sont pas encore effectives sur le marché. C'est des amplificateurs qui, elles, augmentent l'expression de mRNA et de CFTR immature, et les stabiliseurs qui augmentent la demi-vie du canal et qui prévient sa dégradation prématurée. Donc, le premier dont on a eu, qu'on a eu à disposition en 2011, c'est l'IVA-CAFTOR, qui est un potentiateur qui est très intéressant, mais qui s'adresse à un nombre limité de patients, parce que ce sont uniquement les patients qui sont porteurs de mutations précises et mutations de classe 3. On l'a eu donc pour les plus de 12 ans dès 2011, et aujourd'hui, on peut le prescrire dès 4 mois, dès lors que les bébés font plus de 5 kilos. Mais donc c'est une population assez réduite quand même, et c'est une molécule qui marche très bien, avec des résultats très probants, aussi bien sur le plan de l'atteinte respiratoire, le plan nutritionnel et la qualité de vie. Ensuite est venu l'Orkambi. Donc l'Orkambi, c'est une bithérapie qui associe donc l'IVA-CAFTOR précédent, potentiateur, à un correcteur. Et l'intérêt, c'est qu'il s'adresse aux patients delta F508 homozygote, donc là un nombre beaucoup plus important de patients. On en a disposé à partir de 2016 et aujourd'hui on peut le prescrire dès un an. L'AMM a été obtenue parce que dans les essais, ils avaient vraiment eu des bons résultats en termes de prise de poids, les critères qualité de vie étaient meilleurs, il y avait moins d'exacerbations, mais un effet relativement modeste sur le VMS. Et puis dans la vraie vie, on a quand même eu beaucoup de patients qui ont présenté des effets secondaires qui nous ont parfois même conduit à arrêter le traitement. Mais bon, ça nous a quand même permis d'attendre. Ensuite est arrivé le Simkevi. Je suis désolée, c'est beaucoup de... Donc là, c'est aussi une bithérapie avec toujours le même potentiateur, mais un autre correcteur, et qui va s'adresser aux patients qui associent la mutation delta F508 avec une mutation à fonction résiduelle. On peut aussi le prescrire chez les patients delta F508 homozygote, ça marche bien. Je dirais que c'est un produit qui, en France, n'a pas vraiment trouvé son public parce qu'il est arrivé au même moment qu'une trithérapie beaucoup plus efficace. Et cette trithérapie, donc c'est, je l'appellerai ETI pendant la suite du topo, c'est l'association de toujours l'IVA-CAFTOR, le potentiateur, avec deux correcteurs de la protéine CFTR. Et l'intérêt, c'est qu'il est vraiment venu combler un manque, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de thérapeutique pour les patients qui associaient des mutations, la delta F508, avec une mutation à fonction minimale. Or, ces patients-là ont souvent des formes particulièrement sévères de la maladie. Les Américains ont eu la chance de l'avoir dès octobre 2019. Et nous, en France, il a fallu attendre un peu, puisqu'on ne l'a eu, et uniquement à titre d'une ATU compassionnelle, pour les patients de plus de 12 ans en situation clinique très défavorable. Voilà. Et puis après, heureusement, les autorisations successives ont permis d'élargir le spectre. Et à présent, enfin, depuis septembre, on peut le prescrire dès l'âge de 2 ans, dès lors que les patients sont porteurs d'au moins une mutation. À ces autorisations, je dirais, habituelles, c'est celles dans les autres pays, s'ajoute la spécificité française qui est le protocole compassionnel. Et là, je dois dire, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment ce protocole, le fruit d'échanges fructueux et intelligents avec les autorités de santé qui nous ont autorisés à tester CAFTRIO chez des patients qui n'avaient pas de mutation delta F508. Alors au départ, c'était des patients de plus de 12 ans avec des critères de sévérité. Et on a pu montrer, on a colligé tous les cas, que certains étaient répondeurs. Ce qui nous a permis de passer à la phase supplémentaire, enfin la deuxième phase du protocole compassionnel, qui maintenant on a le droit d'essayer chez des patients de 6 ans et plus sans mutation delta F508 et sans critères de gravité, sauf les patients qui sont porteurs de mutations dont on sait qu'ils ne produisent pas de protéines et dont on a pu montrer in vivo et ou in vitro que ça marchait pas. Et à ce jour, il y a un peu plus de 500 patients qui ont été inclus et je crois que c'est 290 qui sont répondeurs. Et donc, c'est des travaux qui ont été publiés, qui ont fait même l'objet d'un bel article dans le Lancet. Et on espère vraiment que ça va permettre à l'échelle internationale d'élargir les indications de cette trithérapie. Donc là, je vous ai fait un petit tableau un peu rébarbatif, mais qui permet de voir en fonction de l'âge et en fonction des mutations quelles sont les thérapeutiques qu'on peut aujourd'hui proposer à nos patients. Donc vous voyez, il y a encore quelques cases vides. Donc c'est ces patients-là qui, pour le moment, n'ont pas accès au modulateur. Il me semblait intéressant, pour que vous mesuriez ce qui se passe chez les patients, de revenir sur les essais qui ont permis l'arrivée sur le marché de cette molécule. Donc le premier essai, oh, pardon, je vais trop vite, c'est un essai qui a été mené, normalement j'avais le design de l'étude, mais tout n'est pas... Donc c'était qui s'intéressait aux patients qui avaient une fonction minimale avec la delta F508, c'était des patients adultes en état stable, et c'était randomisé contre placebo. Le critère de jugement principal, c'était la variation du VMS à 4 semaines. Les critères de jugement secondaire, c'était la qualité de vie, la variation du chlore sudoral. Et les patients ont été suivis pendant 24 semaines et à l'issue des... on étudiait aussi le nombre d'exacerbations et l'impact nutritionnel. Et vous pouvez voir à quel point les résultats sont probants, puisque dès 4 semaines, il y avait une différence de presque près de 14% en termes de gain de VMS chez les patients qui avaient bénéficié du traitement. Et tous les critères de jugement secondaire étaient largement favorables pour le traitement. C'est encore plus net, je trouve, sur le graphe, là où on voit la montée du VMS qui est très rapide, hein, dès 15 jours, et qui va se maintenir tout au long. Il y a un impact très impressionnant sur le nombre d'exacerbations, en particulier les exacerbations qui conduisaient à des hospitalisations et ou des cures antibiotiques par voie veineuse. Le deuxième essai comparait donc l'ETI, la trithérapie, au traitement qui faisait alors référence chez les patients homozygote delta F508, le Simkevi. Donc vous vous rappelez la bithérapie. Le design était similaire en termes de que l'étude précédente là, concernant les critères de jugement principaux et secondaires. Et là aussi, vous voyez très rapidement, donc en rouge, c'est ceux qui avaient le traitement de référence, le Simkevi, et en bleu, ceux qui sont sous ETI, une différence de 10% en termes de VMS et des critères qualité de vie, variation du taux de chlore sudoral qui baisse très très rapidement. Il y en a beaucoup qui normalisent leur test de Lasseur. Et il y a déjà, dès 4 semaines, un impact positif sur l'état nutritionnel. Donc, chez l'enfant, des essais similaires ont été menés, avec des bénéfices aussi très probants sur l'état respiratoire et nutritionnel, une franche supériorité par rapport à Leqembi et Simkevi, et une tolérance dans les essais qui était satisfaisante. Mais après les essais, bah, c'est le temps de la vraie vie. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous proposer un petit cas clinique, qui est le cas d'une de nos patientes qui avait été suivie à Rennes au départ, qui avait 32 ans en février 2020, au moment où on l'a mise sous Kaftrio, qui était sur liste d'attente de greffe depuis septembre 2019 et qui avait une qualité de vie très altérée parce que sous oxygène, en cure antibiotique tous les 2 mois, nourrie, un support nutritionnel parce qu'un état nutritionnel catastrophique, hein, c'est 44 kilos pour 1,70 m, et donc une attente vers la greffe qui se prolongeait. On l'a mise sous Kaftrio en février et 1 mois après, on l'a revue. Elle avait pris plus de 5 kilos. Son VMS était passé de 21 à 77%. Elle a gagné ses performances au test de marche n'avaient plus rien à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que ses résultats se sont maintenus dans le temps. Donc, c'est maintenant quelqu'un qui n'a évidemment qui est plus sur liste d'attente de greffe, qui n'a plus d'oxygène, qui n'a plus de chambre implantable, qui n'a plus de gastrostomie, qui retravaille, qui fait du jogging. Et c'est ce genre de miracle qu'on voit depuis plusieurs années maintenant. Donc en France, comme je vous disais, on avait eu cet ATU et on s'était dit que pour convaincre les autorités de santé qu'il fallait qu'ils aillent vite dans l'obtention de l'autorisation officielle, on a colligé tous les premiers cas qu'on avait inclus entre fin décembre 2019 et août 2020 et on les a évalués au 7 septembre. Donc vous voyez un temps d'étude très très court pour évaluer ben justement la sécurité et l'efficacité. Donc là, c'était que des patients sévères, hein, un VMS médian à 29%. Et comme vous pouvez le voir, un gain là aussi, même chez ces patients très sévères, majeur en termes de fonction respiratoire, en termes de prise de poids, une baisse très importante du nombre de patients sous oxygène, sous VNI ou avec un support nutritionnel. Ce qui s'est passé, c'est que le nombre de patients qui étaient listés ou en cours de... Décidément. Voilà, ou en cours de bilan vers la transplantation pulmonaire est passé de près de un peu plus de 21% à 2%. Donc, grâce à cette étude prospective, on a pu montrer que même chez ces patients atteints de maladies respiratoires sévères, ETI est associé à une amélioration très rapide de la fonction respiratoire et amène à reconsidérer dans l'immense majorité des cas le projet de transplantation pulmonaire. Et c'est une cohorte de patients qu'on continue à suivre et les résultats se maintiennent dans le temps. Alors, j'ai essayé de résumer sur ce tableau un article qui était très bien fait, qui avait fait la synthèse justement de toutes les études publiées en vraie vie au niveau international. Et comme vous voyez, l'impact très positif sur les différents organes, que ce soit les manifestations nasosinusiennes, qui sont très impactantes, hein, chez nos patients, l'amélioration sur le plan respiratoire, sur la microbiologie, bon, les marqueurs de l'inflammation. On a quelques effets secondaires, hein, essentiellement des rages cutanés, des prurites, quelques cas de pancréatite, des petites variations du bilan hépatique et un impact parfois négatif au niveau de l'humeur. Mais j'y reviendrai. Donc j'ai fait quelques petites focalisations en ce qui concerne la colonisation bactérienne, parce que vous savez qu'avant, enfin, c'était vraiment le cœur de notre métier, c'est arriver à traiter ces exacerbations à PIO, multi-air. Donc on assiste à une restructuration importante du microbiote qui regagne en diversité et baisse en abondance, et on note une diminution de l'inflammation locale et systémique et de la charge bactérienne. Mais chez nos patients les plus âgés qui avaient des PIO multi-aires, enfin des PIO avec des phénotypes de colonisation chronique, on n'a pas, ou peut-être pas encore, de modification de ce phénotype. Le CRCM de Lyon a fait une jolie étude, enfin qu'il a présentée, il n'y a pas encore publié, je crois, où ils ont repris la colonisation bactérienne dans les 5 ans qui précédaient la mise sous ETI chez leurs patients adultes, et après à 1 an. Et là aussi, eux montrent vraiment une baisse de la densité bactérienne et de la prévalence des pathogènes, une baisse de la colonisation chronique, donc du passage à la chronicité à Pseudomonas aeruginosa, et ça, c'est vraiment un facteur pronostique important. Mais ça, c'est vrai surtout chez les patients les plus jeunes. À noter quand même, et c'est vrai pour toutes les études maintenant qu'on fait, quand on veut étudier la flore de nos patients, c'est qu'on n'est plus très bon en termes de qualité des ECBC, parce que nos patients ne toussent plus, n'expectorent quasiment plus, donc on a beaucoup moins de prélèvements qu'avant, donc c'est une limite quand même aux résultats qu'on peut donner. Alors un petit point, même si c'est un congrès de pneumologie, mais dans la vie de nos patientes, ça a été la révolution. C'est que sous modulateur, la fertilité de nos patientes s'est vraiment trouvée améliorée. On ne sait pas encore. Enfin, il y a une fluidification de la glaire cervicale qui avant était une barrière anatomique en fait, et puis une nette amélioration de l'état nutritionnel. On pense que c'est grâce à ça. Mais en tout cas, on a fait face à plusieurs cas de grossesse précoce, non attendue, non préparée, parfois quelques jours après la mise sous ETI. C'est clair que les grossesses sous ETI, aussi bien la déroulée de la grossesse que le postpartum, ça se passe beaucoup mieux qu'avant, mais on n'est pas encore, on ne peut pas être complètement rassuré sur l'impact d'ETI sur le fœtus. Il y a des observatoires en cours, il y a quelques cas de cataracte, de variation du bilan hépatique, donc on est dans l'attente des résultats des observatoires, qu'ils soient français ou américains, parce que ce n'est pas toujours facile d'arrêter l'ETI. Souvent, très rapidement, dès qu'on arrête, les patientes se redégradent. Donc, il y a vraiment une balance à faire entre est-ce qu'on privilégie l'innocuité pour l'enfant ou la bonne santé de la mère pendant la grossesse. Alors, je voulais parler aussi de l'impact sur le bien-être mental, parce que là, le bénéfice est peut-être plus nuancé. Ça sera sûrement à réévaluer sur du plus long terme, mais on sait maintenant que ETI est impliquée dans la survenue de troubles anxio-dépressifs, parfois sévères, chez une minorité de patients, fort heureusement, et ça survient souvent dans les premiers mois du traitement. Alors quand même plus souvent chez des gens qui avaient déjà des antécédents d'anxiété-dépression, mais pas uniquement. On n'en connaît pas forcément le mécanisme, et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que des observations similaires sont maintenant observées chez les enfants et des adolescents, avec plusieurs cas rapportés de tentatives de suicide ou de conduite suicidaire, d'où une grande vigilance chez les soignants. Et Vertex a fini par reconnaître, ça a été dur, que la dépression fait partie des effets secondaires potentiels. Je vous ai rappelé là, c'est une étude qui avait été faite par nos collègues américains assez tôt après la mise sous ETI, sous forme d'un sondage auprès des patients. Ils les interrogeaient sur les différents domaines du bien-être, et vous voyez que c'était quand même, quand c'est en bleu, c'est bien, c'était largement positif. Par contre, si on se focalise sur le bien-être mental, là, les résultats étaient quand même plus mitigés, avec une proportion non négligeable de patients anxieux, agités, dépressifs, d'où notre vigilance sur ce point-là. Donc on aboutit aujourd'hui à une communauté qui est un peu clivée parce qu'on a d'une part les patients éligibles aux modulateurs qui sont très majoritaires, les patients non éligibles ou intolérants et les patients qui ont été transplantés avant l'avènement des modulateurs. Alors pour les patients non éligibles, c'est sûr que c'est le sentiment de double peine hein, qui a en plus été aggravé parce que personne ne pouvait, n'a pu échapper pendant quelques mois à la large médiatisation des résultats obtenus. Et c'est venu encore accentuer le sentiment de culpabilité des parents qu'il exprime souvent. Et tous, parents et patients non éligibles, des patients non éligibles, redoutent que la maladie soit banalisée et que nous perdions en expertise. Et enfin, ne pas pouvoir, pour des raisons réglementaires, au moins essayer ETI. Donc avant qu'on ait le protocole compassionnel, ça avait généré vraiment beaucoup de ressentiment. Alors, chez les patients éligibles, bon, c'est clair que les premières semaines, hein, c'était l'euphorie. Et puis, en fait, après, en particulier chez les patients les plus âgés, on a assisté à une phase un peu plus délicate liée à la perte de leurs repères médicaux et sociaux habituels et de certains bénéfices secondaires, je pense même, qu'ils pouvaient tirer de leur maladie. La difficulté aussi à adopter de nouvelles habitudes alimentaires parce que pendant des années, on les a tannés, il faut manger ce que vous voulez, il faut grossir, manger salé pour éviter la déshydratation. Et là, maintenant, on est amené à leur dire de manger un peu comme monsieur tout le monde, mais ce n'est pas si simple. Et puis, il y a aussi leur changement d'image corporelle qui a souvent été rapide, parfois même brutal, parce que c'est plusieurs kilos en quelques semaines. La répartition n'est pas toujours harmonieuse. Et ça peut être un frein à l'observance, en particulier chez les adolescents. L'espacement des visites au CRCM, parce que c'est des patients qu'on voyait au moins tous les 3 mois, mais du fait des complications, on les voyait beaucoup plus souvent. Le fait qu'ils aient beaucoup moins recours aux soignants libéraux fait que chez certains, il y a eu un sentiment de manque, un peu d'abandon. Bon, rassurez-vous, il y en a qui s'en trouvent très bien. Hein. Mais on est passé peut-être en tant que soignant un peu à côté, parce que ce n'était pas toujours formulé, de ce mal-être. Alors, par contre, pour les plus jeunes qui sont maintenant possibles, voire pour certains quasi asymptomatiques, bon, l'enjeu, ça va être l'observance, parce que l'intérêt préventif, il n'est pas évident. Donc, quand on voit un jeune qui va moins bien, il faut vraiment s'interroger sur est-ce qu'il a bien pris son traitement. Parce qu'eux, ils s'en foutent que ça coûte 15 000 euros le mois. Ils s'en foutent. Je ne sais pas s'ils s'en foutent, mais voilà, il faut vraiment avoir ce souci-là de vérifier, même si pour nous, ça semble évident qu'ils vont le prendre, qu'il y a eu quelques enquêtes qui ont montré que parfois, il y avait des petites... ils prenaient quelques légèretés avec leur traitement. Donc ça a eu des conséquences évidemment très importantes sur les soins. Nous aussi, on était complètement euphoriques. Hein, c'était champagne toute la semaine parce que ça faisait des années qu'on accompagnait nos patients vers la greffe. Il y a eu des années noires où on perdait des patients sur liste d'attente parce qu'il n'y avait pas assez de greffons disponibles. Et là, je souhaite à tout médecin de connaître ça dans sa carrière. Mais là où avant on était confronté aux hémoptysies, aux pneumothorax, aux surinfections, maintenant on est dans une médecine un peu plus plan-plan, personnalisée, préventive, qui ne se fait plus quasiment qu'en ambulatoire. Donc ça a eu un impact important sur notre organisation. Hein. Et ça nous oblige à repenser notre CRCM parce qu'il faut à la fois quand même maintenir les compétences pour les patients non éligibles, mais qu'on sache mieux prendre en charge les nouvelles comorbidités parce que maintenant on a des patients qui sont obèses. On a des patients qui ont le temps de développer des cancers et ils ont un sur-risque de développer des cancers, notamment digestifs. Et puis les risques cardiovasculaires, parce qu'avec les mauvaises habitudes qu'ils ont prises sur le plan alimentaire, on commence à doser les triglycérides, ce qu'on ne faisait jamais avant. Hein, et on a des surprises. Quoi. Donc voilà, il y a le diabète qu'il faut mieux prendre en charge également. Donc ça nous amène à retravailler vraiment tous nos outils d'éducation thérapeutique. Et plus que jamais, la collaboration avec les laboratoires de génétique et le conseil génétique tiennent une place primordiale dans notre organisation de soins. Donc l'avenir, c'est toujours la voie des modulateurs. Alors bien sûr, sous réserve du maintien de l'efficacité et de l'innocuité à long terme, parce que ça reste encore très récent, hein, cette histoire, avec l'extension des indications donc aux patients non DLTAF et des autorisations de plus en plus précoces. On attend de nouveaux modulateurs. Le prochain, normalement, doit arriver en janvier. Là, ce sera une prise par jour. C'est trop facile. Et puis aussi de nouvelles combinaisons avec des amplificateurs et des stabiliseurs. Alors, fort heureusement, il y a d'autres voies de recherche pour les patients non éligibles ou intolérants, avec en particulier un regain d'intérêt pour la thérapie génique, avec deux essais internationaux, mais qui ont pu débuter. Il y a des centres en France qui ont pu débuter, donc c'est phase 1, phase 2, donc ça se fait que dans des grands CHU, hein, Montpellier, Paris, mais on a des patients qui vont y participer. Il y a des travaux très intéressants de Fabrice Lejeune à Lille sur les mutations non-sens. Il y a aussi beaucoup de travaux, notamment, il y en a beaucoup qui sont faits à Brest dans le laboratoire du professeur Montier sur la rhéologie du mucus. Et enfin, pour les patients transplantés pulmonaires, eh ben, l'essentiel de la recherche tourne autour de la meilleure compréhension du rejet chronique et, si possible, d'arriver à trouver un traitement et la prise en charge des comorbidités. Je vous remercie de votre attention et ça, c'est chez moi.
Merci beaucoup Sophie, c'était très intéressant. En fait du coup, moi je me souviens à Rennes quand on faisait la visite le week-end, quand on était d'astreinte, on rentrait dans une chambre de muco, 10h30, 11h, tout était déjà encore fermé, il ne fallait pas déranger le patient, on lui parlait, il répondait à peine, c'était l'image que j'en avais, ça a dû changer.
Maintenant ils font du sport, il y a les virades dimanche hein, si vous voulez.
Oui, merci pour cette présentation. Avec Guillaume, mon voisin, on se disait que c'était vraiment parallèle avec le VIH. Et du coup, actuellement, chez les patients qui ont répondu comme ça de manière spectaculaire, le suivi au CRCM, finalement, actuellement, vous regardez quoi et quelles sont les difficultés ou les nouvelles maladies? Vous parliez du bilan lipidique. Le suivi s'organise comment maintenant?
Alors, au départ, on a gardé le même rythme de suivi parce que vraiment... On découvrait avec eux, on ne savait pas trop où on allait, donc on a gardé la visite trimestrielle. Et puis aussi parce qu'on participait à cette étude de cohorte. Là, on commence à espacer les visites à 4 mois, en sachant que les patients appellent très facilement. Enfin, il y a toujours des liens importants. Donc, on continue à surveiller la même chose, les mêmes choses, à savoir la flore bactérienne. Le suivi de la fonction respiratoire, mais avec maintenant des recommandations aussi pour le suivi, par exemple, on est très insistant sur le dépistage des cancers. Là où un patient lambda, il va faire sa première colonoscopie c'est après 50 ans, je crois. Et ben, chez nos patients mucos, c'est dès 40 ans. Et s'il y a un projet de transplantation ou les patients les plus graves, on va le faire très rapidement. Voilà, c'est pour l'essentiel. Mais on continue à surveiller les EFR, les scanners réguliers, aussi parce que comme c'est une phase nouvelle, on essaie de collecter un maximum les données, on les met en commun. Mais je pense, pour les patients qui vont vraiment bien, moi, il y a des patients que je ne vois plus que 2 fois par an. Donc je pense que là, on est encore dans une phase intermédiaire, mais il est fort probable que les recommandations de suivi vont changer et peut-être que le médecin généraliste retrouvera une place qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait plus parce que tout le suivi se faisait dans le centre spécialisé. Je pense qu'il faut le maintenir quand même, ce suivi très organisé, très spécialisé, mais on voit bien que même certains professionnels, les kinés qui étaient vraiment les piliers de nos équipes professionnelles, gardent une place importante parce que comme nos patients vieillissent, ils ont aussi... des problèmes ostéo-articulaires, donc on réoriente peut-être, mais le drainage à proprement parler, on continue à en faire et c'est important, mais les patients qui avaient besoin d'avoir une séance de kiné tous les jours, maintenant, font 2 fois par semaine et encore, ils sont censés le faire, ils ne le font pas forcément, ils n'ont plus forcément besoin. Mais il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il y a quand même des patients qui restent sécrétants, qui disent « je ne crache plus », puis quand on leur fait une vraie séance de drainage autogène, finalement, il y a un peu de sécrétion, donc il y a quand même une veille sanitaire, je dirais, à maintenir.
Et dans votre file active, le pourcentage de patients non éligibles à ces nouvelles thérapeutiques, c'est à peu près combien?
Chez les adultes, moi, j'en ai qu'un actuellement. Aussi parce que grâce au cadre du protocole compassionnel, on a pu élargir beaucoup plus les données. Et chez les enfants, il y en a qui n'ont pas encore, mais qui vont l'avoir dans quelques mois. Alors, soit Orkambi, soit... Donc, c'est moins de 10%, hein, les patients. Entre les patients non éligibles et intolérants, on est à moins de 10%.
D'autres questions ?
Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question de savoir s'il y aurait la possibilité d'un dépistage génétique, peut-être pendant la grossesse, plutôt que de faire des dépistages à la naissance. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça ?
Alors, il y a un dépistage, vous savez, néonatal proposé à tout le monde. Le dépistage pendant la grossesse est proposé dans les familles dites à risque, soit les familles où il y a déjà un cas d'enfants atteints de mucoviscidose, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est ce qu'on appelle plutôt le dépistage en cascade des apparentés pour que les personnes connaissent, les couples connaissent leur statut quand il y a de la mucoviscidose dans la famille, pour qu'ils sachent, si possible, avant qu'une grossesse débute, quelle est leur probabilité de donner naissance à un enfant atteint de mucoviscidose. Mais il y a des possibilités quand il y a des... parce que parfois, l'information n'est pas passée dans la famille et puis les questions se posent alors que la grossesse a déjà débuté et on peut faire des diagnostics anténataux sur biopsie trophoblaste, mais ça arrive relativement tardivement. Et il y a maintenant aussi des nouvelles techniques qui sont en train de se développer sur juste des prélèvements sanguins, donc qui vont faciliter les choses, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc il y a des possibilités de dépistage, mais qui ne sont pas... pas généralisés, je suis pas si, enfin, là où ça va changer, c'est peut-être plus en tout cas, c'est pas remis en cause et je pense qu'il faut que ça reste un droit. Mais jusqu'ici, quand il y a un diagnostic de mucoviscidose chez un fœtus, la femme, enfin le couple, a la possibilité d'interrompre la grossesse. Peut-être qu'un jour ce sera remis en cause compte tenu du fait que. Il y a des traitements qui sont très efficaces, mais on est quand même au tout début de ces traitements et il y a encore des patients qui ont des formes graves, des formes sévères. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais je ne suis pas certaine qu'il y ait une indication à faire. En tout cas, pour le moment, les méthodes de routine de diagnostic anténataux sont quand même invasives.
Oui, mais je parlais du coup peut-être chez les parents, en fait. Est-ce que, par exemple, chez les femmes, je sais qu'aux États-Unis, je crois qu'ils proposent ça, de dépister la femme, en fait, de faire la recherche de mutation chez la maman. Et si elle est positive, éventuellement chez le papa. Et par contre, si... Et donc, je ne sais pas, est-ce que ça coûterait pas moins cher de faire un dépistage génétique aux parents qui veulent, plutôt que d'attendre le dépistage néonatal? Je ne sais pas, je me posais la question. Cher, j'imagine.
L'avantage du dépistage néonatal systématique, c'est que, oui, peut-être, mais faut que ce soit une possibilité. Ça pourrait être une possibilité, mais ça a un coût.
Oui, bien sûr.
Donc, à l'échelle de la société, ça pourrait créer des inégalités, parce que je ne suis pas sûre que ce soit pris en charge par la Sécu, ce dépistage anténatal, sans, en dehors de familles identifiées à risque. Faut payer.